C'est la deuxième heure de ce 1278e Sweet Home Chicago, l'invité de la deuxième heure est Laurent Galichon, guitariste et leader depuis 15 ans du quintet Red Beans and Pepper Sauce, originaire de la région de Béziers. Il nous présente dans cette interview Fleuve le nouvel album du groupe Supernova. Ce disque incroyable de maîtrise et d'inventivité accueille les prestations de nombreux invités, jugés plutôt Fred Chapelier, Johnny Gallagher, Manu Lanvin, Emmanuel Pidjob, Sax Gordon, Yarol Poupeau, Bonnie Fields, Rabbi Outi et Fred Wesley. Dans cette première partie d'interview, nous évoquerons les débuts de guitariste de Laurent Galichon, ses héros guitaristiques, la formation du groupe en 2010 et puis le line-up actuel avec Jessica Hackey au chant, Serge Osier au clavier, Pierre Cordier à la basse et Nico Saran à la batterie. Nous évoquerons le processus créatif du groupe et la jeunesse de leur nouveau bébé Supernova, ainsi que les grosses influences classique rock et funk old school qui ont présidé à sa création. Et nous détaillerons ensemble Elle, avec le grand Fred Chapelier en invité, ainsi que I Want to Take You Higher, un titre fou, repris au répertoire de Sly and the Family Stone. On terminera avec la version originale, non sans avoir bifurqué entre-temps vers Jimi Hendrix, Michael Jackson, The Beatles et Isaac Hayes. Voilà, notez que la seconde partie de l'interview de Laurent Galichon sera diffusée dans votre émission de la semaine prochaine. Et puis nous clôturerons l'émission avec un nouvel extrait du disque du mois, Soul in Blue, signé Tad Robinson chez Delmark Records. Voici donc Red Beads and Pepper Sauce, la première plage, The Shadows. Shadows, extrait de Red Beans and Pepper Sauce, l'album Supernova. Voici cette interview, première partie, avec Laurent Galichon, le guitariste et leader du groupe. Laurent Galichon, bonjour.
Salut.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Bon, ouais, oui, Laurent Galichon de Red Beans and Pepper Sauce. Notre dernière causerie au téléphone dans l'émission, ça remonte au 28 janvier 2023. Tu avais animé le 20e numéro de My Rockers. Tu avais opté pour Jimi Hendrix, tu t'en souviens ?
Bien sûr.
Si c'était à refaire, tu choisirais le même artiste, Laurent ?
Ah bah oui, toujours. Ouais. Toujours
Jimi Hendrix, hein, vraiment, il est ancré, il est tatoué profondément dans ce que tu aimes.
Oui, bah, il est tatoué sur mon bras déjà. Bon, alors après, j'aime plein d'autres trucs, si tu veux, et si on me demande quel est le truc que je préfère, c'est toujours difficile.
Ouais.
Celui-là coche plus de cases encore que les autres, voilà.
Laurent, t'es aussi intervenu dans l'émission le 10 décembre 2022, tu es remonté à la cave voir les archives, le 12 octobre 2019, le 16 septembre 2017, donc aujourd'hui, c'est notre 5e interview ensemble dans Sweet Home Chicago. D'une manière générale, Laurent, est-ce que tu aimes l'exercice de l'interview en tant que tel?
Ça me dérange pas. Bon, là, c'est vrai qu'avec la sortie d'album, il y en a beaucoup. Et que, évidemment, forcément, au bout d'un moment, les réponses sont un peu les mêmes. Mais franchement, ça fait plaisir. Moi, je pense aux gens qui écoutent ou qui lisent. Et c'est toujours un plaisir qu'on m'interroge sur le travail qu'on fait avec le groupe.
On va évoquer, bien sûr, le groupe Red Beans and Pepper Sauce, votre dernier album Supernova qui est sorti en février. Et j'ai d'abord quelques petites questions à propos de toi. Et puis, toi et la guitare, parce que ça m'a l'air de quelque chose de vraiment important. Enfin, on s'en est rendu compte à l'écoute de tous les albums que tu as pu sortir. Et puis, dans les précédentes interviews, bien sûr, mais on va dire pour les auditeurs qui te connaissent pas, il devait y en avoir un ou deux. Est-ce que tu peux, Laurent, te présenter en quelques mots avec toi et la guitare? C'est une longue histoire, ça.
Hein. Oui, ça m'a pris comme beaucoup à l'adolescence en voyant jouer un autre gars qui jouait de la guitare. Je trouvais que ça avait l'air chouette, même si j'aimais déjà beaucoup la musique, j'avais pas envisagé de jouer d'un instrument. Et puis voilà, j'ai vu un gars dans la cour du lycée qui jouait de la guitare. J'ai dit, tiens, il faudrait que je fasse ça. Et donc j'ai acheté ma première guitare et ça m'a plus lâché depuis. Voilà, j'ai un peu appris la batterie en parallèle, mais ça reste l'instrument avec lequel je m'exprime le plus. Et puis bon, forcément, comme tous les guitaristes, après j'ai écouté de la musique de guitariste. J'écoutais déjà Jimi Hendrix plus jeune. Je me rappelle que j'avais, quand j'étais encore plus jeune, comme beaucoup de gamins, j'aimais Michael Jackson, mais forcément le morceau que j'aimais le plus, c'était celui où il y avait Van Halen, tu vois.
Oui.
Donc je pense que voilà, c'était même bien avant que je décide de faire de la guitare, c'était quand même marqué que c'était un truc qui allait me plaire. Et puis voilà, ça m'a toujours, j'ai jamais eu de soucis pour en jouer pendant des plombes, si bien qu'un jour mon père, voyant qu'au niveau des études c'était pas trop ça, il m'a dit cette phrase assez importante, je trouve, qui était de dire que quoi qu'on fasse dans la vie, il fallait travailler, sinon ça marche pas.
C'est vrai.
Et comme j'étais capable de passer des heures sur la guitare, il m'a dit tu devrais peut-être travailler ça, tu devrais peut-être faire ça comme métier, puisqu'au moins là tu peux y passer des heures sans qu'on soit obligé de te courir après.
Voilà. Oui, parce que c'est une passion, bien sûr, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, un travail, parce qu'on a beau être doué, si on travaille pas, on n'arrive pas à grand chose en fait.
Oui, voilà, bah après, quand on décide d'en faire son métier, forcément, on se donne le temps de le faire, on étudie, on n'est pas comme beaucoup. Je donne des cours aujourd'hui, je vois beaucoup d'adultes qui essayent de se mettre à la guitare, mais qui peuvent pas à cause du boulot, ou des gamins qui commencent à faire des études un peu soutenues, qui n'ont plus trop le temps pour la guitare. Quand tu décides d'en faire ton job, ben, au moins tu te libères du temps pour le faire, et puis. Et encore à cette époque-là, j'avais pas vraiment goûté à la scène, tu vois, c'était juste de jouer de la guitare, le truc. Et puis après, quand j'ai goûté à la scène, et encore plus quand j'y ai goûté en jouant ma propre musique, ce qui s'est fait assez tard finalement, parce que j'ai débuté Red Beans, j'avais 35 ans.
Oui, et puis maintenant que tu vas fêter tes 80 ans, tu penses un petit peu à ta retraite, c'est ça l'idée.
Exactement.
Oui, alors voilà, ce groupe dont on va parler, bien sûr, avec tous tes compères, donc Jessica Hackey au chant, Serge Osier au clavier, Pierre Cordier à la basse, Nico Saran à la batterie, ils sont là tout autour de toi pour t'épauler. J'ai l'impression que c'est toi le leader quand même de Red Beans and Pepper Sauce, je me trompe pas?
Oui, il vaut mieux qu'il y ait un leader dans un truc comme ça, sinon ça devient complexe à organiser. Mais après, il y a plein de choses qu'on décide ensemble. C'est pas juste moi qui décide et les autres sont des exécutants. On est ensemble et je chapeaute le truc un petit peu. Si tu veux, pareil pour quand on écrit la musique, c'est moi qui chapeaute à la base. Et puis après, tout le monde s'exprime sur ce qu'on essaye de créer.
Oh,
Question matos, Laurent. Quels sont tes petits secrets? Ceux de ton son ou de tes sons? J'ai envie de dire, tu utilises quoi comme guitare principalement? Cordes, ampli, pédales? Il y a des secrets comme ça?
Bon, chaque musicien a son petit truc. Moi, le truc qu'on me demande le plus souvent, c'est d'où sort l'espèce d'ampli que j'ai? Parce que c'est un ampli, c'est pas un ampli d'usine, on va dire. C'est pas une marque. C'est un gars sur Toulouse qui fabriquait, qui avait l'habitude de réparer beaucoup de vieux amplis, des Plexi Marshall, des Hi-Wat, des trucs comme ça. Et puis, qui s'est mis à faire des sortes de copies de Plexi. Puis, à l'époque, ça me plaisait. Ça me disait bien, j'avais essayé des vieux Plexi Marshall et je voulais quelque chose dans l'idée, donc il m'a fait cet ampli qui s'appelle Plextone, qui est un 100 watts. Pour les puristes, j'utilise des G12 H30 comme haut-parleur, mais là, pas pour la coupe puriste. Et si tu veux, après, au niveau des guitares, pendant des années, j'ai eu des guitares assez les plus classiques, on va dire, c'est-à-dire la Strat et la Les Paul de chez Gibson. Et puis, j'ai rencontré Bertrand de la marque Melody ND qui m'a fait essayer une de ses créations et j'ai découvert tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à posséder une guitare de luthier, donc qui sonne pas du tout comme quelque chose qu'on connaît. Tout le monde connaît le son d'une Strat et d'une Les Paul. Et là, ça me permettait de créer des sons un peu plus nouveaux. Donc j'ai trouvé que c'était un super truc. Donc j'ai gardé cette guitare que j'utilise énormément, qui s'appelle la Dragonfly de chez Melody ND. Et après, au niveau des pédales, c'est assez classique, hein. Comme les guitaristes qui jouent comme ça, un peu classique rock 70s, j'ai les tubes Screamer, j'ai des échos. Enfin, il n'y a pas de vraiment de secret. J'utilise des trucs assez classiques, mais depuis quelque temps j'essaye d'utiliser des marques françaises parce qu'on a des gars chez nous qui travaillent vraiment super bien, donc voilà, j'essaye.
Et puis aussi parce que maintenant on est à l'ère du protectionnisme, c'est vrai que moi on achète américain, je sais pas.
Voilà, c'est pour répondre à Donald Trump.
Oui. Est-ce que tu chantes, Laurent? C'est une question que je m'étais posée, mais je me demande si je te l'avais demandé.
Écoute, c'est arrivé alors que je chantais, chantais pour faire des chœurs, chantais moins quand j'écris pour envoyer lire les maquettes aux autres membres du groupe et qu'il y ait du chant par-dessus. Donc je me suis mis à le faire sur cet album. J'ai chanté tout l'album en chantant moins, tu vois, que évidemment, heureusement, personne n'entendra. Mais ça m'est quand même arrivé dans la discographie de pousser quelques trucs. On avait fait un album de reprise il y a quelques années où j'avais chanté un morceau des Beatles qui s'appelle Helter Skelter.
Ah oui.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you?
Où je m'étais bien cassé la voix, c'est-à-dire qu'après pendant 2 jours j'avais pas pu parler.
c'est Paul McCartney qui fait la partition sur la version originale, je crois, non?
C'est Paul et je suis toujours subjugué. Alors, je l'ai vu en concert, bon, il y a une petite dizaine d'années, mais il avait déjà 70 ans passé. J'étais subjugué du fait qu'il arrivait à le sortir sans aucun problème. C'est une folie. Bon, après, le gars maîtrise le chant, la technique de chant, alors que moi, pas du tout. J'avais chanté aussi un couplet de Bright Light de Gary Clark Jr. qu'on chantait avec Jessica.
Ah ouais.
Elle avait 2 couplets, moi un, voilà. Mais c'est tout, parce que j'ai pas une grande passion pour ça et j'ai pas non plus des qualités. J'ai une voix de hurleur, mais dès qu'il faut être un peu fin et tout.
T'as une bonne voix qui passe à la radio quand même, Laurent. On s'en rend compte actuellement. Je voudrais qu'on revienne avant la création de Red Beats and Pepper Sauce. Quels ont été les projets musicaux qui ont précédé la création de ce groupe?
En termes de création, rien. C'était vraiment la première fois que j'allais écrire de la musique, ce groupe. Mais avant ça, je faisais... après, j'ai fait beaucoup, comme beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de reprises ou de reprises blues dans les cafés-concerts. Mais le truc qui m'a donné le goût à aller chercher des scènes un peu plus grosses avec plus de public, c'est d'avoir monté, bien avant que ce soit la mode, il y a 20 ans maintenant, une tribute à Jimi Hendrix. Et donc là, on avait commencé à jouer en dehors des cafés-concerts, à aller sur des petites scènes de festivals, et j'avais dit que c'est quand même vachement intéressant de jouer dans ces endroits-là, et puis c'est un peu ce qui a amené à la création de Red Bull.
Day. I've got to give back.
Laurent Galichon, tu évoques la création de ce groupe Red Beans and Pepper Sauce. J'ai l'impression, en tout cas à lire tout ce qui parle de vous, que la création de ce groupe, ça a été, je crois, un des actes les plus importants de ta vie, Laurent, non ?
Oui, ça, parce que ça m'apporte beaucoup.
En tout cas, de ta vie de musicien, pardon. Hein.
Oui, mais c'est quand même, comme ma vie de musicien est vraiment une très grosse part de vie tout court, oui, ça m'apporte beaucoup, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, jusque-là, je faisais de la cover, comme beaucoup de gens, sur les scènes des cafés-concerts, des clubs, et jouer sa propre musique, c'est quand même autre chose, avoir des gens qui payent leur place pour venir écouter ce qu'on produit, c'est quand même, ça permet quand même de se s'ouvrir un peu la tête, et puis ça permet de voyager, ça permet de rencontrer énormément de gens, si c'était à refaire, c'est sûr que je refais la même chose, mais je le fais encore plus tôt.
Alors, Nico Saron à la batterie, Pierre Cordier à la basse, Serge Ouzier au clavier, Jessica Hacquet au chant et toi, Laurent Galichon, à la guitare. Est-ce qu'il y a eu des changements de personnel depuis la création du groupe ?
Ah oui, beaucoup. En fait, depuis le tout premier album, je suis le seul rescapé, en fait. Il y a eu, au début, on s'est cherché un peu avant de tomber sur Jessica au chant. Et c'est elle qui est dans le groupe avec moi depuis le plus longtemps, puisqu'elle est là depuis 2011. Mmh. Donc on avait fait un an avant avec d'autres. Ensuite, Nico Saran, le batteur, a rejoint le groupe quand le batteur précédent a voulu prendre un peu de recul sur la musique. Puis ensuite, c'est Serge qui est arrivé et dernièrement, c'est Pierrot à la basse. Mais ce qui est super et ce qui fait qu'il y a une super ambiance dans le groupe, c'est que Serge, Pierre et Nico se connaissent depuis avant même que je me mette à faire de la musique.
Ils sont, ah oui.
Ils ont quelques années de plus que moi. Ils ont eu des groupes ensemble il y a déjà plus de 20 ans. Donc c'est trois copains qui partent en tournée. Alors on est tous potes, mais eux sont potes depuis très longtemps, donc c'est vraiment c'est une petite famille quand on part en tournée.
Puis eux, ils ont commencé à la maternelle aussi, quelque part. Donc.
Exactement.
C'est ce qu'on appelle un vrai groupe, hein. Red Beans and Pepper Sauce. Quand on dit un vrai groupe, c'est pas Jessica Hacquet and Pepper Sauce ou Laurent Galichon and Pepper Sauce. Mais est-ce que néanmoins, ça a pu vous arriver de jouer en concert avec un remplaçant ?
C'est arrivé à la basse, c'est arrivé au clavier aussi. C'est pas évident comme exercice, vraiment. D'abord parce que ça demande beaucoup de travail au remplaçant qui vient. Et puis, il y a des instruments où ça pourrait pas. La batterie, les guitares, ça serait compliqué. Alors le chant, n'en parlons pas. Donc, c'est pas un exercice qu'on aime, mais c'est arrivé des fois. Voilà, on a un engagement, il y en a un qui a un problème médical évidemment, et on essaye de sauver le concert. Cet été, on en a eu deux qui ont failli être annulés parce que notre bassiste Pierrot a eu des ennuis qui sont réglés depuis, mais voilà, il y en a un on a réussi à sauver et l'autre malheureusement on était trop court et malgré tous nos efforts on n'a pas réussi.
Et puis il y en a eu un aussi où il y avait quand même Serge, mais il n'y avait pas de clavier sur la scène. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Très mauvais souvenir.
C'est pas cool, ça.
Les performances de Red Beans and Pepper Sauce, les performances scéniques sont remarquables de mise en place et d'énergie. Est-ce que l'écriture des chansons est aussi le fruit d'un travail de scène, finalement?
Disons qu'avec les années, quand je commence à travailler les morceaux, disons que quand je me retrouve au moment où on décide d'aller, ça y est, on fait un nouvel album, que je vais piquer dans mon tiroir à idées des choses que j'ai enregistrées des fois depuis plusieurs années, que j'ai pas gardées pour d'autres albums et tout. Je me retrouve avec beaucoup de morceaux et il faut choisir. On va pas en travailler 20. Et je pense à la scène. C'est à ce moment-là que je me dis attention, on va devoir jouer ça sur scène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de pas refaire des choses qu'on a déjà faites ou peut-être des morceaux qu'on a joués mais qu'on trouve pas assez aboutis, qu'on pourrait faire d'une autre manière, un concept qu'on pourrait améliorer. Enfin, bref, je pense beaucoup à la scène. Donc, c'est la finalité. C'est le moment où on va jouer les morceaux devant le public. Donc, à ce moment-là, on y pense beaucoup.
Est-ce qu'il y a une préparation physique avant les concerts et puis un protocole après les concerts pour mieux gérer, j'ai envie de dire, l'énergie dégagée et puis les efforts déployés?
Oui, avant, c'est très important d'avoir du pastis bien frais pour le... pour la circulation, pour des tas de trucs comme ça. Mmh. Et après, il faut bien manger, c'est sûr. Il faut s'hydrater de nouveau. C'est important l'hydratation. Mais on n'est pas des sportifs. Jessica, évidemment, fait plus attention, puisque de toute façon, déjà, elle, son instrument, c'est sa voix, c'est son corps.
Oui.
Donc, elle fait évidemment plus attention que nous.
Donc, c'est elle qui conduit, en fait, au retour, c'est ça l'idée.
On a des hôtels à côté des salles, comme ça, oui, on conduit ça,
c'est
ça
quand
va
même
encore
mieux.
Plus vite.
Alors, on va parler, Laurent Galichon, du dernier album de Red Beans and Pepper Sauce qui s'appelle Supernova. Je vais me permettre de citer tout simplement la présentation de cet album, j'ouvre les guillemets. Après l'album Seven qui a été enregistré à Rockfield Studio au Royaume-Uni en 2022, Red Beans and Pepper Sauce revient avec Supernova, qui est sorti donc le 7 février 2025, et signe 11 titres incandescents où classique rock et soul fusionnent avec une intensité rare, riff puissant, rythme envoûtant et voix saisissante, offrant un voyage au cœur même de l'essence d'un groupe en quête perpétuelle de passion et d'énergie. Un album sublimé par les contributions de 9 invités d'exception lors de collaborations mémorables. Fermez les guillemets. Alors, on va parler tout à l'heure, bien sûr, des invités, mais je me permets également de citer ce qui est écrit à l'intérieur de la pochette, parce que ça aussi, ça illustre bien le contenu. Ouvrez les guillemets une nouvelle fois. Supernova est un voyage cosmique intérieur, un tourbillon incandescent au plus profond de soi, où les harmonies se frôlent, puis s'embrasent et donnent vie à une supernova brûlante et mystique qui illumine l'âme et le cœur. Au plus profond de soi, c'est ça que vous écrivez. Est-ce que c'est un voyage musical et onirique, Laurent?
Oui, j'ai écrit ce titre parce que je ne le fais pas à tous les albums, mais il y a eu des albums avant où je l'ai fait déjà, d'écrire un petit texte comme ça qui essaye d'expliquer avec des jolis mots, des mots choisis, ce qu'on a essayé de faire. On est nombreux dans le groupe à avoir des goûts musicaux qui pourraient presque être mis en opposition. Moi j'aime beaucoup le classic rock 70, des trucs très durs, tu vois, des trucs de Led Zepp ou de Black Sabbath, tu vois, de,
ou Deep Purple,
de méchant. Voilà, Deep Purple bien entendu. Et à côté de ça, je suis un grand fan de soul music vraiment large, de James Brown à Sly and the Family Stone. J'adore la Blaxploitation, cette musique fun des années 70 qui accompagnait les films, les polars tournés. Il y a un côté du cinéma Hollywood, les blacks se sont réappropriés le cinéma parce qu'ils avaient marre de jouer les méchants dans des films. Ils ont dit on va faire des films où on sera les gentils et les méchants en même temps, voilà. Et les musiques qui ont accompagné ça sont fantastiques.
Shaft par exemple.
Tout le monde pense à Shaft, évidemment, mais Curtis Mayfield a fait des trucs fantastiques,
oui, oui.
Mais vraiment fantastiques. Et c'est un peu en opposition avec le classic rock. Et c'est comme ça aussi pour d'autres trucs. Nico, par exemple, le batteur, est très amateur évidemment de rock, de classic rock, de musique très organique, faite avec des instruments. Les sons un peu à l'ancienne, de John Bonham, des trucs comme ça. Il aime la prise de son, avoir le son le plus naturel possible à la batterie. Et à côté de ça, c'est un grand fan d'électro.
Ah ouais.
Donc on a tous comme ça, sur des trucs différents, des styles qui s'opposent vraiment. Et je trouve que c'est un peu le sujet de cet album. c'est très intéressant de les faire se rencontrer, ces styles. D'où la pochette Supernova avec de soleil qui rentre en collision. Parce que quand tu fais de la fusion, on a déjà, on n'a rien inventé. Quand tu fusionnes comme ça, des éléments, t'obtiens un nouveau truc, tout aussi puissant, peut-être même plus puissant. Donc, c'est un voyage intérieur sur nos influences pour essayer d'en retrouver l'essence et de mélanger tout ça et pour faire notre truc à nous.
Comment est-ce qu'a été réalisé cet album? En quoi est-ce que ce disque a été soit facile, soit difficile, je ne sais pas, à réaliser?
Un peu difficile pour l'organisation, enfin rien de méchant non plus, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'invités, oui. Il fallait voir comment certains allaient pouvoir enregistrer en présentiel avec nous, d'autres à distance. Bon, les technologies modernes font que c'est pas si difficile que ça. Au final, c'est plus le présentiel qui est difficile parce qu'il faut qu'on arrive à ajuster nos agendas, tous, on a tous beaucoup de dates, donc du coup, ça a pris du temps, on savait que ça prendrait du temps, ça s'est fait sur plus de 6 mois, et puis on travaille beaucoup, Nico qui produit l'album et moi, on est tout début, le travail se fait presque que nous deux, où j'envoie des parties guitare, des parties basses, il me renvoie des parties batterie et tout, puis une fois que les morceaux ont pris forme, que les structures sont faites, c'est à ce moment-là que les autres interviennent pour apporter leur sensibilité, leur personnalité musicale. On a passé plus de temps sur ça, à se renvoyer des trucs, à dire non, ça va pas, il faut refaire, et puis lui aussi, sur le mixage et la post-production, il a passé plus de temps, on avait décidé qu'on prendrait un peu plus de temps, et je pense qu'on refera pareil la prochaine fois, parce que...
Oui, c'est pas un regret, parce que effectivement, passer beaucoup de temps, c'est pas du temps perdu, le résultat en atteste, enfin en tout cas, ouais. Si tu veux bien, Laurent, on va passer en revue les différents invités qui sont présents dans Supernova. Alors parmi eux, certains se retrouveront peut-être justement à contre-poids au vu de leur univers musical propre qui est parfois sensiblement différent du vôtre, même si, tu le disais, il y a une double face à tes passions personnelles. Cette osmose qui se dégage de l'album, l'impression d'unité qui ressort à l'écoute de l'album entier, ça montre que vous avez eu raison dans vos choix et que l'objectif est atteint. Ça, c'est moi qui le dis.
Merci.
Mais je te propose pour chaque artiste invité de me dire en quelques mots quel rapport le groupe a entretenu avec lui. Tu parlais du côté présentiel et puis du côté virtuel aussi. Et puis me dire pourquoi lui aussi. Alors on commence par Fred Chapelier si tu veux bien.
Alors Fred Chapelier, c'est un guitariste que j'aime beaucoup. J'aime énormément son toucher, son phrasé. Quand il joue, sa façon de chorusser sur les blues, je trouve ça. J'aime beaucoup cette fluidité qu'il a. Moi, c'est un truc de guitariste. Voilà, j'aime beaucoup son jeu. Et donc quand on a commencé à parler d'invités, j'ai de suite mis sur la liste. On a essayé de choisir que des gens qu'on connaissait, qu'on avait au moins rencontrés ou que certaines d'entre nous avaient rencontrés déjà.
Ouais.
Donc Fred, il était apparu un invité sur un concert de Manu Lanvin et qui avait convié à l'époque également Jessica pour chanter quelques morceaux avec eux. Donc c'est Jessica qui avait déjà fait un peu de musique avec lui. Et donc on s'est dit, allez, ok, on va essayer de faire un morceau. Et je sais, parce qu'on a des connaissances communes, je sais que même si lui est un grand musicien de blues, je sais qu'il aime beaucoup classic rock, il aime beaucoup Ritchie Blackmore. Et donc l'idée c'était de le faire jouer sur un morceau avec un riff, des trucs un peu plus hard que ce qu'il peut produire avec son groupe personnel. De l'amener vers, justement, de lui donner la possibilité de poser sur le jeu et de faire des phrases sur un truc un peu plus dur que ce qu'il peut faire d'habitude. Et moi, je trouve le résultat fantastique. We'll be right back.
on pourrait parler justement du clip qui met en scène Fred Chapelier dans ce titre Hell. On se concentre sur vraiment l'instrument guitare dans le clip. Les musiciens sont tous filmés individuellement. Moi, je trouve l'image belle, très dynamique. Le montage rappelle un peu les procédés des années 70 avec cette espèce de côté psychédélique qui a apporté les éclairages. Qui a réalisé le clip? Comment est-ce qu'il s'est fait également?
Ah, le clip, on l'a fait à deux têtes avec mon ami Geoffrey Mind, qui est un musicien, youtubeur sur Montpellier, qui nous accompagne maintenant depuis de nombreuses années, depuis 2018 ou même avant, qui a fait beaucoup de clips avec nous. Donc des fois, c'est lui qui réalise totalement et on travaille, ça dépend des fois. Là, c'est moi qui lui ai scripté les images qu'on voulait faire. On voulait ces images avec des effets stroboscopiques, on voulait... Et puis lui a apporté sa science et du cadrage et surtout de l'étalonnage qui donne cet effet comme ça un peu brillant sur les musiciens. Il y a une image un peu particulière dans le clip. Ça, c'est à lui qu'on le doit. Moi, je me suis occupé du montage. Donc voilà, on a fait le truc à deux comme ça. On a imaginé l'image qu'on avait envie de faire. On voulait juste mettre les musiciens en valeur.
Alors, il y a eu d'autres collaborations et notamment sur le titre I Want to Take You Higher dans lequel on retrouve Emmanuel Pitjob, également Bonnet Fields, Manu Lanvin, Fred Wesley et Yarol Poupeau. Tous ces gens-là dans le même titre. Un morceau, une reprise absolument incroyable, dantesque, j'ai envie de dire. Là encore, pourquoi le choix de ces musiciens, de ces instrumentistes?
Alors, c'est un petit peu différent. C'est selon, bon, dès qu'on a décidé de faire ce morceau et d'inviter du monde, on a pensé à des cuivres. Donc, il se trouve qu'on est amis avec Bonnie. Jessica le connaît bien. Elle a participé à son dernier clip. Donc, c'était une évidence d'appeler Bonnie. Puis, on s'est dit, bon, il faut des cuivres. Ce serait bien qu'il y en ait plusieurs sur ce titre. Et là, j'avais une connaissance commune avec Fred Wesley. Et Nico avait rencontré Fred Wesley sur un after de festival. Ils avaient passé une soirée, un after ensemble à parler de musique. Donc, j'ai dit, allez, on le tente. Et puis, il s'est trouvé qu'il était là cet été pour le festival de jazz d'Anduze. On a profité de l'occasion, c'est pas loin de la maison, on est allé dans le studio d'un pote à côté d'Anduze. C'est une session d'enregistrement que je suis pas prêt d'oublier, tu vois.
Ah oui.
Se retrouver à un mètre d'une telle légende pendant qu'il est en train d'enregistrer un studio, c'était un truc de fou. Et après, donc, pour d'autres raisons, alors on a invité Emmanuel Job parce que c'est un ami, on avait déjà collaboré avec lui sur des albums précédents, c'est un ami de Nico de longue date. Et puis on s'est dit, sur le morceau original, il y a deux garçons qui chantent, Sly Stone et Larry Graham. On s'est dit donc qu'il faut deux grosses voix, il faut une voix qui puisse répondre à Emmanuel Pitjob. Et Manu Lanvin faisait partie, c'était un ami du groupe depuis de nombreuses années. Il m'avait invité dernièrement à jouer sur son très bel album hommage à Kelvin Russell.
Oui.
C'était l'occasion de lui rendre l'appareil. On avait coché son nom dès le début, on ne savait pas encore quel morceau, mais on s'est dit, ben voilà, sa voix terrifiante.
Sa voix tonitruante, ouais.
Voilà, ça va faire des merveilles avec celle d'Emmanuel, et donc c'est exactement ça. Puis il y a la voix de Jess, plus soul, qui vient compléter le tableau. Donc voilà, tout ça s'est fait un peu comme ça, au fur et à mesure, il n'y avait pas de plan. Et puis, quant à Yarol, on avait prévu toute une série de solos à la fin du morceau, et j'ai dit, ça serait cool qu'il y ait Yarol. On l'avait rencontré un an et demi auparavant, je crois, sur un festival dans le sud-ouest. On avait bien sympathisé, et il se trouve, si tu veux, que moi j'ai une histoire avec ce morceau, avec ce titre de Sly and the Family Stone,
ouais.
Que j'ai découvert sur le tard, puisque je te disais que j'écoutais des styles différents, mais au tout début, avant 18 ans, j'écoutais vraiment que du rock et des trucs qui cartonnent. J'écoutais pas du tout de la soul, et ce morceau que j'ai découvert par hasard complètement, même pas la version Sly Stone, j'ai découvert à la télévision, m'a complètement retourné, et ça a été ma porte d'entrée sur la soul music. C'est ce qui fait qu'après je suis allé écouter les James Brown, la Blaxploitation, la Stax, la Motown, tous ces trucs. Et à la même période où j'ai eu cette grande révélation musicale, il y a les Gibbs qui sont venus jouer à Béziers, chez moi, Maceo Parker, Fred Wesley. Et quelques mois après, FFF, c'était le milieu des années 90, tu vois, j'avais 20 ans.
La belle époque de Maceo Parker aussi, effectivement.
Ouais, exactement. Les trois claques en même temps, en quelques mois, si tu veux, et toutes sur le funk ou sur la fusion avec FFF, qui a été une de mes plus grosses claques de tous les temps sur scène. C'était terrifiant, l'énergie de ce groupe-là. Et le fait d'avoir Fred Wesley et Yarol sur ce titre, pour moi, c'est un accomplissement majeur, quoi.
J'imagine.
C'est gravé dans le marbre, ça restera, et je pourrais presque prendre ma retraite, tu vois.
Faire ça et mourir, c'est ça l'idée. Voilà. I want to take higher. I just want. I Want to Take You Higher, ça avait été enregistré en 1969 par Sly and the Family Stone. Effectivement, quand tu dis j'ai découvert sur le tard, t'étais pas né de toute façon en 69. Donc
oui, évidemment, c'était pas possible. Je n'écoute de la musique que de gens décédés de toute voilà. façon, extrêmement vieux, donc
Merci à Laurent Galichon d'écouter à travers cette interview des extraits d'autres formations. The Jimi Hendrix Experience, Foxy Lady en 67. Michael Jackson avec Monsieur Edward Ludwig Van Halen en 1982 pour Beat It. The Beatles avec Helter Skelter, on était en 1968. Isaac Hayes, le thème from Shaft en 1971. Et là vient de se terminer Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. C'est à 45 tours, nous étions en 1969. Et puis à travers ça, bien sûr, plusieurs extraits de Supernova avec Another One, I'm a Woman, Same Old Story, Hell et I Want to Take You Higher. On termine l'émission comme prévu, comme promis, avec Up in the Air, extrait de Soul in Blue, c'est Monsieur Tad Robinson.
A dollar went from hand to hand back in the day, I'm told. But the rules of the game have broken down, and there's nothing really taking hold. They always tell you keep on moving, there's nothing here to see. Everything, baby, is up in the air except for you and me. But it's hard out here for the common man. Dad always said to me, give it the best that you can. I used to know my way around here, but now I'm drifting like a ship out at sea. Everything, baby, is up in the air except for you and me. Shaking my head and thinking about the mess this world is in. Seems like all the crazies get their way in the end. Without you, I just couldn't take it. I'd be down on my knees. Everything, baby, is up in the air except for you and me.
Up in the Air, signé Tad Robinson. C'est ainsi que se termine ce 1278e Sweet Home Chicago. On va se retrouver samedi prochain avec la deuxième partie de l'interview de Laurent Galichon de Red Beans and Pepper Sauce. Et puis, en première heure, Michel Roland, directeur artistique du Cognac Blues Passion, qui nous présentera l'édition 2025. Et puis, n'oubliez pas que vous avez bien sûr rendez-vous sur bluesradio.fr, que ce soit pour vous enquérir des playlists ou aller voir s'il y a des cadeaux. Et puis également, mais savoir qui sont les prochains invités. Le 24 mai, ce sera Robert Moriès pour le Cahors Blues Festival et Manu Galvin partie 1, la partie 2 aura lieu le 31 mai. Manu Galvin qui a beaucoup de choses à vous dire. Et puis également le 31 mai, on aura Jacques Perrotte, Greg Bellery et Patrick Payard, tous les trois au chevet d'un certain groupe qui s'appelle Led Zeppelin. Salut, bye bye.